Sacré coup de chaud encore aujourd'hui sur le pays. Ce dôme de chaleur s'est installé et bien installé. Et on n'en a pas terminé. On va regarder le relevé des températures du jour, là où il a fait le plus chaud, avant d'en discuter précisément avec Virginie Fanlevy. Regardez, 37,5 à Durban-Corbière, on est dans l'Aude. Et à Prins-d'Erançon, là, on est dans les Deux-Sèvres. Alors, justement, comment est-ce que ça évolue? On va retrouver en Gironde, on va retrouver tout de suite Marine Mulcé pour BFM TV. Elle est à Bordeaux, l'une des villes où il a fait le plus chaud aujourd'hui. Et pourtant, on continue de faire du sport en plein air, Marine.
Oui, tout à fait. Et pourtant, je peux vous dire qu'il fait très chaud. On transpire même sans bouger. Il fait 37 degrés. On a atteint le pic de chaleur aujourd'hui. Et vous le voyez derrière moi, il y a quelques sportifs. Et pourtant, quand on touche les installations, elles sont extrêmement chaudes. C'est très désagréable. Alors, ils s'hydratent. Il y a des brumisateurs à côté où ils se rendent de temps en temps. On a vu également quelques joggeurs, des personnes qui font du vélo. Mais je peux vous dire que les conditions ne sont pas optimal et qu'il faut vraiment penser à s'hydrater parce que ça peut être très dangereux, on peut risquer l'hyperthermie. Donc là, il fait actuellement 37 degrés, ça va commencer à baisser, mais il devrait faire chaud encore toute la nuit. On ne devrait pas descendre en dessous de 20 degrés avant 5 heures du matin.
Marine Mulcé en direct de Bordeaux en Gironde avec Déborah Roch pour BFM TV. Simplement, on a le docteur Aurel Gage avec nous qui regardait les sportifs et je vous demandais là comme ça tout doucement, est-ce qu'ils ont raison de faire du sport ou pas, docteur?
Bah, il fait 37.
En fait, alors là, il fait 37 degrés, évidemment. Il faut qu'il fasse du sport, mais de façon, on va dire, mesurée. Je m'explique. La chose la plus importante, c'est de s'acclimater. C'est-à-dire que ce qui est recommandé, puisqu'on a eu une expérience, je ne sais pas si vous vous souvenez, une expérience, c'était lors de la compétition de sport au Qatar, c'était donc le football. Donc c'est bête à dire, mais on a maintenant des conférences de consensus.
On avait déplacé d'ailleurs la compétition au mois de décembre pour qu'il fasse moins chaud.
Ouais. Mais malgré tout,
les salles étaient climatisées.
Mais on était quand même dans des circonstances ou dans des cadres d'entraînement. Les sportifs, devaient aussi s'entraîner dans des conditions très complexes. Donc on a essayé un petit peu de comprendre comment on fait quand il fait très chaud. Bah, la première chose, c'est on peut s'entraîner, mais quand on s'entraîne, et déjà faut se connaître, faut pas avoir de comorbidité, etc. Faut le faire à bas régime et initialement pendant les deux premières semaines, on va rester sur des séances assez légères. On nous dit qu'il faut minimum 90 minutes. On fait trois séances de 90 minutes à bas régime. Évidemment, si vous commencez à avoir des maux de tête, des crampes ou de la fatigue, vous arrêtez.
Il faut boire beaucoup.
Il faut évidemment boire beaucoup. Mais on peut pas interdire non plus aux gens de faire du sport.
Bien sûr. Virginie Hilson-Lévy est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la canicule est bel et bien installée durablement sur notre pays, avec quand même une nouveauté. Paris et trois nouveaux départements franciliens passent en vigilance orange.
Voilà, exactement, parce que les seuils de canicule, donc les seuils de température minimale et maximale pour Paris et sa petite couronne vont être dépassés sur les trois prochains jours. Alors, le seuil minimal, c'est 21 degrés, maximal 31 degrés. On va facilement les dépasser puisqu'entre jeudi et vendredi à Paris, il va faire 35 degrés, plus de 20 degrés la nuit. Et évidemment, il y a ce phénomène d'îlot de chaleur urbain qui va faire son petit effet avec forcément un air qui s'annonce très étouffant. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle donc Météo France, en donc collaboration avec les agences régionales de santé, ont placé donc tous deux ces quatre départements supplémentaires en vigilance orange. Donc il va faire très très chaud et il continue de faire très chaud dans l'ouest aussi. C'est la raison pour laquelle les 13 autres départements sont toujours donc colorés en orange sur la carte. Alors on le montrait tout à l'heure, il faisait 37 degrés à 16h dans l'Aude, les Deux-Sèvres. Alors pour vous donner une idée, on avait même dépassé la barre des 35 degrés à 13h. C'était quasiment 4 degrés de plus qu'hier à la même heure. Donc forcément il faisait un peu plus chaud aujourd'hui.
Il fait plus chaud dans l'ouest et le nord que dans le sud en ce moment.
Alors dans le sud,
si
on a quand même...
Nice par exemple.
Ouais. Oui, à Nice, par exemple, c'est vrai. C'est un peu plus tempéré par l'océan aujourd'hui. On a des températures un petit peu plus basses, mais il faisait quand même très chaud ce matin. Et ça a vraiment, donc, c'est resté sur un plateau quasiment toute l'après-midi. Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment dans l'ouest qu'il fait le plus chaud. Le sud-ouest aussi, on l'a vu à Bordeaux, où on vient de battre un record mensuel de chaleur. 159 records en plus aujourd'hui.
Donc, si je comprends bien, Paris et sa région vont connaître sans doute les journées les plus chaudes demain et peut-être vendredi. Et ensuite, que disent les dernières prévisions sur la fin de cet épisode caniculaire?
On voit enfin cette fin de canicule. Alors samedi, ce sera pour les régions du nord-ouest progressivement. Sur la façade atlantique, en Aquitaine notamment, il va faire beaucoup moins chaud à partir de vendredi. Et puis, à partir de samedi, et puis dimanche, logiquement, c'est une fin de canicule pour tout le monde, avec des températures qui vont bien baisser. Donc ça y est, on commence vraiment à voir la fin de cet épisode exceptionnel.
Cet épisode exceptionnel qui a entraîné des perturbations, vous savez, dans les transports commun, enfin en particulier sur les rails, avec les histoires du TGV, passagers qui sont restés bloqués, qui ont mis 8h30 précisément pour arriver à rejoindre leur destination dans le sud. On a Coralie qui est avec nous, parce que Coralie, il lui est arrivé la mésaventure suivante. Bonsoir Coralie, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous avez fait partie des passagers bloqués dans le TGV sans climatisation et vous avez été verbalisé pour avoir ouvert une issue de secours. L'amende est maintenue ou pas ?
Alors déjà, ce n'était pas une issue de secours, hein, c'était juste une porte normale. J'ai juste activé l'ouverture manuelle puisqu'il n'y avait plus d'électricité, qui n'était pas si compliqué en soi puisqu'il y avait juste un schéma à suivre en tirant une manivelle et en ouvrant.
Une amende de 200 euros.
Et l'amende de 200 euros, normalement, elle serait annulée. J'ai eu une dame de Ouigo qui m'a appelée hier soir pour s'excuser et pour annuler l'amende et elle m'a confirmé ça par SMS ce matin.
Ah bah racontez-nous, parce que là on est à la fin de l'histoire, mais racontez-nous ce qui s'est passé dimanche dernier. Pourquoi justement vous avez voulu ouvrir cette porte? Vous étiez dans l'un, il y a eu deux TGV hein, bloqués au nord de Lyon. Vous êtes dans l'un des deux TGV. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors moi j'étais dans le TGV Ouigo au départ de Lille qui allait jusqu'à Marseille. Et en fait, il est tombé en panne à peu près à 5 minutes de Lyon. Et en fait, il s'est passé que ça a été une panne électrique et que pendant une heure, les gens sont restés bloqués à suffoquer dans le TGV. Le train était plein, donc je vous imagine le nombre de personnes que ça faisait. Moi, je me trouvais dans le wagon 18 et en fait, on n'avait pas vraiment d'informations à part qu'il y avait une panne électrique. Mais du coup, qui dit panne électrique dit plus de climatisation, les toilettes bloquées. Il n'y avait pas non plus de service à bord, donc pas d'eau. Et en fait, au bout d'une demi-heure, les gens ils commençaient vraiment à se sentir mal. Il y avait tout le monde qui prenait des papiers pour essayer d'avoir un peu d'air, parce que vraiment, c'était le manque d'oxygène qui se faisait ressentir. Et en fait, au bout de 40 minutes, les gens ont commencé à quitter leur place pour se réfugier en bas du train pour chercher un peu le frais. Qui n'avait pas, mais c'était, je pense, un peu moins pire que dans les wagons avec le soleil qui tapait sur les vitres et sur les plateformes. Et du coup, je pense au bout d'une heure, on a eu l'info qu'on ne saurait pas grand-chose avant 1h30 et qu'il fallait qu'on patiente. Sauf qu'en fait, moi, j'ai cherché du personnel de bord, j'en ai pas trouvé. Et au moment où je suis revenue dans mon wagon en bas, il y avait peut-être on était peut-être 15 personnes en bas. Et il y a une dame qui est en train de suffoquer et qui m'a supplié d'ouvrir la porte. Et en fait, instinctivement, j'ai juste regardé et j'ai déclenché le mécanisme d'ouverture manuelle pour avoir de l'air. Il n'y a personne qui est descendu du train. Et en fait, c'était vraiment histoire
pour
de faire circuler.
Faire entrer de l'air, circuler de l'air. Quoi.
Exactement, ouais.
Mais à ce moment-là, il y a un contrôleur qui est arrivé?
Un contrôleur, plus deux, plus trois, qui m'ont super mal parlé et qui ont refermé la porte derrière moi en disant qu'ils avaient trouvé la relou du train. Du coup, voilà, ils sont tous arrivés un peu à.
Donc, ceux que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent, tout d'un coup, ont surgi pour vous verbaliser.
Voilà. Exactement.
Et vous avez quand même expliqué pourquoi vous avez fait ça?
Bah oui, je lui ai dit, écoutez, monsieur, la dame à côté de moi, elle respirait plus, c'est plus viable, en fait, il faut que vous fassiez quelque chose, quoi. Donc, ils ont refermé en disant que c'était pas possible d'ouvrir les portes. Et tout ça pour au final revenir 5 minutes après, parce que c'était vraiment plus tenable. Il a réouvert la porte et je lui ai dit, tout ce scandale pour ça, c'est un peu dommage, vous faites la même chose que moi. Tous les gens sont descendus. Et après coup, au bout de peut-être 20 minutes où on était assis dans le talus, du coup, il y avait pas de, on était sur une voie de délestage, donc il y avait pas du tout d'autres voies à côté pour qu'un train passe. En fait, il y avait un champ et un talus. Donc on s'est tous posés à l'ombre. Et à ce moment-là, il y a 3 personnes de la police ferroviaire qui sont venues me voir. Ils m'ont demandé ma carte d'identité, mon titre de transport. Et ils m'ont dit, vous savez pourquoi on vient vous voir? Je lui ai dit, j'imagine que c'est parce que j'ai ouvert la porte. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il y a un contexte autour de ça. Et ils m'ont dit, enfin, ils m'ont pas écouté. Ils m'ont dit, en gros, on veut rien savoir. C'est un acte très dangereux ce que vous avez fait. Donc on va vous amender.
De 200 euros. Mais pardon, Coralie, oui. C'est complètement absurde, puisque quand ils viennent vous voir, vous êtes dehors. Et c'est d'ailleurs les contrôleurs qui vous disent d'aller dehors, prendre l'air avec les autres et d'attendre dehors. Donc c'est absurde.
J'avais ouvert la porte 5 minutes avant eux. Donc
oui, vous avez ouvert trop tôt la porte, en fait.
Voilà, exactement. Mais après 1h15 où tout le monde n'arrivait plus à respirer, donc j'ai pas fait ça non plus dans les 5 minutes qui ont suivi l'arrêt. Et puis ils m'ont amendé. J'ai refusé de payer cette amende. En tentant de leur expliquer pourquoi, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Et 5 minutes après, il y a un des trois hommes qui est revenu en me disant que si je ne voulais pas signer, c'était ma décision, mais que ça pouvait aller au pénal et que c'était très, très grave.
Donc, et finalement, elle est incroyable votre histoire, et finalement, Ouigo s'est excusé quand même.
Et finalement, Ouigo s'est excusé hier soir. Et puis
parce que l'affaire a été médiatisée.
Grâce à vous, voilà, j'allais dire, si j'avais pas contacté quelques médias, je serais encore en train de me battre pour que cette amende soit annulée, quoi. J'étais prête à envoyer ma lettre de contestation. J'avais le soutien du maire parce que j'avais réussi à l'avoir dans la commune de Montanay. Donc, voilà. Ouais.
Mais, vous reprendrez le train quand même. Vous reprendrez le train quand même.
Oh, peut-être pas, non. Je vais voir. Je réfléchis à deux fois.
Merci Coralie.
Il faudrait qu'ils changent un peu leur mentalité et puis leur protocole. Et ça, peut-être que je réfléchirai à reprendre le...
Merci voilà. D'avoir été avec nous, Coralie. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. On va aller à Rennes retrouver Pauline Sarafi. Parce qu'il y a un autre souci avec ces fortes chaleurs. C'est la vulnérabilité des personnes âgées, en particulier dans les EHPAD. Souvenons-nous de la canicule. Et c'est ce que vous êtes allé constater, justement, Pauline. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, c'est climatisé? Est-ce qu'il y a des pièces rafraîchies ou pas?
Bien sûr, le plan canicule a été lancé partout dans le département même de l'Ille-et-Vilaine. Alors forcément, il y a beaucoup d'inquiétudes dans les EHPAD pendant ces épisodes de forte chaleur parce que vous le disiez, les personnes âgées sont des personnes particulièrement vulnérables. Alors on a discuté avec quelques résidents ici à l'EHPAD Gaëtan Hervé de Rennes et il y en a certains qui le vivent un peu mieux que d'autres. On est avec Michel. Michel, vous, comment est-ce que vous vivez ces épisodes de forte chaleur?
Je les vis très bien parce que je supporte la chaleur. Moi, la chaleur ne me fait pas peur.
Vous avez pu discuter un peu avec d'autres résidents? Est-ce qu'il y en a d'autres qui le vivent mieux?
Jusqu'ici, je n'ai pas entendu quelqu'un se plaindre.
Et vous me disiez aussi que c'est parce que vous êtes bien pris en charge. Voilà. Comment est-ce qu'on vous aide?
Voilà, on nous aide. Il y a des dames de service qui, si on les appelle, que ça ne va pas, ils viennent tout de suite et on n'attend pas et on demande ce qu'on veut.
Alors ici, les activités, elles ont pas été interrompues. On vous a vu participer à la chorale tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous faites justement pendant ces périodes de forte chaleur où vous pouvez plus aller dehors pour vous occuper?
Moi, je regarde le sport beaucoup à la télé. En ce moment, c'est le tennis, donc je regarde le tennis.
Et participer comme ça à des activités, est-ce que ça vous fait penser à autre chose peut-être?
Non. Pour l'instant, non. Je suis un petit peu perdu parce que. Il n'y a pas longtemps que je suis en EHPAD et puis voilà.
Bon, vous l'avez entendu donc, certains résidents qui vivent beaucoup mieux cette situation que d'autres. En tout cas, tout est mis en place dans le département et à Rennes pour éviter n'importe quel incident dû à la chaleur. Puisqu'ici, il fait 34 degrés dehors, 45 au soleil et la chaleur va continuer jusqu'à demain avant de redescendre ce vendredi.
Voilà, Pauline Sarafi avec Thomas Hérigaud à Rennes, en Ille-et-Vilaine.
Nous sommes avec, on va parler un peu de politique parce que bien sûr cette canicule interroge, elle revient chaque année et on se pose la question finalement qu'est-ce qu'on fait de plus pour améliorer la vie des Français face à ces vagues de chaleur. Ludovic Pingano, vous êtes conseiller écologiste à Paris et je voudrais savoir si à Paris on a par exemple
c'est
climatisé.
Nour Durand-Rocher.
Oui, pardon, je me trompe. Je sais que j'étais en train de me trouver. Non, pardon, Nour Durand-Rocher, membre du bureau exécutif Europe Écologie Les Verts, conseiller de Paris. Est-ce qu'à Paris, par exemple, on a climatisé les écoles?
Alors, à Paris, on n'a pas climatisé les écoles. Je vais quand même revenir sur ce que disait Coralie tout à l'heure, qui à mon avis est essentiel, c'est qu'en fait, elle a eu le bon sens d'ouvrir la porte, et c'était quand même une question de survie face à une telle vague de chaleur. Et en fait, les Françaises et les Français ont le bon sens de s'en sortir et de réagir face à ce qu'ils ressentent et qui est insupportable. C'est des records en mai, on n'a jamais vu ça. Et en fait, il y a eu un manque d'anticipation des pouvoirs publics. En l'occurrence, à Paris, on en est encore à faire un plan volet pour vous dire de là où on venait. Mais évidemment,
un plan volet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volet.
Écoles n'ont pas de volet. Écoles n'ont pas de volet. On fait de l'isolation thermique. Là, dans l'engagement de ce mandat, c'est d'isoler toutes les crèches et toutes les écoles qui n'ont pas encore été isolées thermiquement. Et donc, en fait, tout ça, ça se prépare. Ça fait quand même 50 ans qu'on le sait. Il y a toujours plus de vagues de chaleur qui arrivent toujours plus tôt. Et j'ai une pensée pour les personnes comme Coralie, pour les personnes en EHPAD, pour les personnes qui vivent dans des passoires thermiques. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'anticipation et le problème, il est politique.
C'est pas tellement d'anticipation, de réalisation, là, parce que... Ça fait maintenant depuis la canicule de 2003, on aurait quand même pu passer
exactement.
À l'action.
Et en fait, à chaque fois, il y a des annonces.
Et en réalité, votre majorité, elle est quand même à Paris depuis un petit moment, là aussi. Et les écoles, c'est la municipalité.
Oui, mais en fait, on l'a déjà fait massivement. Mais en fait, tout ça est long à faire.
Pourquoi vous êtes contre
tout
la clim?
Tout ça est long à mettre en place. Alors, c'est pas que je sois contre la clim. Je pense que pour tout un tas de publics, c'est hyper important. Mais en fait, il faut que ce soit précis.
On voit quand elle tombe en panne dans le train, c'est embêtant, par exemple.
Ah, c'est plus qu'embêtant. Mmh. Par contre, quand c'est dans une passoire thermique, c'est très embêtant parce que c'est une surconsommation d'énergie qui, en fait, sert à réchauffer les oiseaux. Et la question, c'est quand même comment est-ce qu'on a pu diffuser le fonds vert par 4 en 2 ans et comment est-ce qu'on a un gouvernement qui, sur ses engagements, n'a en fait absolument pas fait le quart du tiers de ce qu'il avait promis de faire, à tel point que le Haut Conseil pour le Climat dénonce les mesures gouvernementales. Et ça fait quand même 50 ans qu'on est au courant de ce qui nous arrive. Et la catastrophe aujourd'hui, c'est pas une catastrophe climatique. La catastrophe, c'est une catastrophe politique de par l'incapacité des gouvernants à être capables de bien mettre en place les mesures nécessaires.
Regardez, on a compilé un petit clip, l'équipe de l'émission, sur 40 secondes des déclarations politiques au cours des quelques dernières années.
Que les personnes dont on est proche et fragile s'hydratent, boivent régulièrement.
D'adapter les positions de travail, d'adapter les horaires.
Restent au frais, au moins 2 ou 3 heures par jour, et ne sortent pas aux heures les plus chaudes.
Permettre de l'aération, mettre à disposition de l'eau fraîche en quantité.
On doit aussi se préparer à des épisodes plus longs.
Faire en sorte d'aménager quand c'est possible les horaires de travail, notamment pour celles et ceux qui travaillent à l'extérieur.
Il faut penser aux plus fragiles, les personnes âgées, les enfants, les personnes à la rue.
En veillant à ce qu'il y ait des points d'eau qui puissent exister de manière régulière.
Que personne ne soit en situation de déshydratation grave.
Les pièces rafraîchies dans les EHPAD.
Ça n'est jamais inutile de repasser les conseils de prévention.
Alors, il y a les conseils.
Ça, bah, les conseils, c'est de boire de l'eau. Hein.
Voilà. Ça, c'est une chose où
on a des ministres qui sont là pour nous dire de buvez de l'eau. Hein.
Et puis après, il y a l'action, effectivement, et là, on est en retard.
Ah, on est extrêmement en retard. On est en retard sur nos pays voisins. On a continué de fonctionner énormément sur les énergies fossiles. Et en même temps, on n'a pas préparé tous les lieux pour les personnes fragiles, et notamment les écoles et les EHPAD et toutes les institutions publiques à la transformation. Et pour pouvoir enfin nous adapter, il faut faire les deux. Il faut faire une transition vers les énergies vertes et décarbonées. Et de l'autre côté, il faut s'adapter. Il faut arrêter d'en parler. Et il faut le faire. Et c'est insupportable que ce ne soit toujours pas mis en place.
Alexis Cuvillier, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a une réunion demain, présidée par Sébastien Lecornu, Premier ministre. Alors déjà, très critiqué par les oppositions. À gauche, comme Marine Tondelier, on lui reproche d'avoir rien préparé finalement, alors que la canicule revient chaque année. Et puis du côté de Marine Le Pen, on veut un grand plan clim pour climatiser tous les établissements. Que répond Sébastien Lecornu à ces critiques? Qu'est-ce qu'on dit à Matignon?
Du côté du gouvernement et du côté aussi de l'entourage du chef de l'État, il y a une pointe d'agacement sur la politisation, en tout cas c'est ce que eux dénoncent, de cet événement, en disant que là on est dans une gestion courante d'un épisode et qu'il y a évidemment des messages de vigilance qu'il faut passer, mais qu'on ne peut pas non plus reprocher, en tout cas ça c'est ce qu'on dit du côté de l'Élysée, qu'on ne peut pas reprocher une inaction totale de l'exécutif sur ce point. On met en avant des baisses d'émissions qui ont été assez fortes, jamais été aussi fortes, dit l'entourage du président de la République sous les quinquennats du président de la République, et que il y a un certain nombre de travaux qui continuent. On sait que sur la question notamment des énergies fossiles, vous l'évoquiez, il y a par exemple ce plan d'électrification que l'on évoque depuis plusieurs semaines. Mais c'est vrai, vous avez raison, Marine Tondelier, elle continue de porter d'autres propositions, de dire que le gouvernement n'a pas suffisamment agi, que quelque part Emmanuel Macron n'a pas suffisamment pris l'ampleur des changements à faire.
Il y a eu beaucoup de discours.
Et donc il y a des certaine façon, et qu'il y a des oppositions qui font des propositions. On a entendu Marine Tondelier, cette proposition du congé climatique, qui est quelque chose qui revient régulièrement, et ça fait écho aussi pas mal à des déclarations gouvernementales des années passées, en disant faut aménager les horaires, etc. Donc là, Marine Tondelier propose quelque chose qui permet d'avancer, et vous avez évoqué Marine Le Pen qui, elle, propose un grand plan de climatisation. Elle s'est contentée sur les réseaux sociaux de reposter une déclaration qu'elle avait faite à l'occasion d'un épisode caniculaire de l'été dernier.
Ah bah justement, parce qu'on parle d'enjeux politiques, il faut quand même regarder ce qui se passe à l'échelle européenne. Effectivement, ce réchauffement dont on parle, on va regarder ça avec vous, justement, François Gapillon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. En fait, il faut savoir que la température moyenne sur notre continent, elle augmente 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, ce depuis les années 80. C'est ce qui figure dans le rapport du service européen Copernicus sur l'état du climat en Europe, qui a été publié fin avril. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, regardez-les. Plus 0,56 degrés par décennie en Europe ces 30 dernières années, contre 0,27 degrés d'augmentation au global. ça peut sembler très étonnant, vu les efforts et les résultats d'ailleurs de l'Europe en matière de transition écologique. En ce qui concerne la baisse des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, entre 1990 et 2023, l'Union européenne a réduit ses émissions de 33,7% et le reste de l'Europe et la Russie de 27,3%. Mais justement, vous allez voir, ça fait partie des raisons du réchauffement plus rapide de l'Europe, même si, attention, la première raison, la principale même, reste sa situation géographique, dans le sens où notre continent est placé relativement haut dans l'hémisphère nord et comprend beaucoup de terres et peu d'océans. Or, la Terre se réchauffe plus vite que la mer. Il faut savoir aussi que les pôles se réchauffent plus vite que l'équateur. Ainsi, l'Arctique est la région du monde qui se réchauffe le plus vite. Deuxièmement, même si ça joue un peu moins, la baisse de la pollution explique cela. Nous y voilà, notamment dans toutes les grandes villes européennes. En fait, ça enlève un effet d'écran qu'il y avait auparavant sur les rayonnements du soleil. Et donc, ça rend le réchauffement, si je puis dire, plus efficace. Même raisonnement en ce qui concerne, vous le voyez, la fonte des glaces et de la neige dans le nord de la Norvège, de la Suède, au Groenland aussi, ça diminue l'effet réfléchissant et donc ça pousse la Terre à absorber plus de rayonnement du soleil.
Merci François Gapillan. Isidore Delagorre, c'est au Parc Montsouris. On est là, en plein centre de Paris. On va la retrouver parce que ce Parc Montsouris, auquel on vient se promener, faire du sport, flâner, pique-niquer.
Qui fait plus tard, d'ailleurs.
Voilà, justement, il sera ouvert ce soir jusqu'à minuit.
Exactement, 14 parcs sont concernés dans Paris par cet élargissement des horaires. Ils seront ouverts jusqu'à minuit et c'est le cas du parc Montsouris où nous nous trouvons. Pourquoi ? Parce que ces parcs sont des îlots de fraîcheur pour les Parisiens. Ils peuvent venir se mettre à l'ombre, trouver un peu de fraîcheur et ils sont nombreux aujourd'hui à venir en profiter. C'est le cas par exemple de Joachim. Joachim, vous habitez juste à côté du parc et vous êtes venu ici parce qu'il faisait trop chaud chez vous, c'est ça ?
Oui, c'est ça, j'habite juste en face, donc c'est comme une extension de l'appartement.
Et qu'est-ce que vous mettez en place chez vous quand il fait trop chaud ?
On a récupéré un ventilateur en bas de l'immeuble et on a une grande fenêtre qui aère, donc il fait chaud, mais on s'en sort.
Bon, visiblement pas assez puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces parcs qui ouvrent plus tard jusqu'à minuit dans Paris ?
Je trouve que c'est une bonne chose de permettre à tout le monde d'avoir un endroit pour être plus au frais. Je pense aux plus précaires et aussi peut-être avec les années à venir, c'est des poumons, ça rafraîchit la ville, donc c'est nécessaire.
Merci beaucoup. En tout cas, on vous laisse profiter de l'ombre. Et s'il fait très chaud chez vous ce soir, vous pouvez également profiter de 140 parcs et jardins qui restent ouverts 24 heures sur 24 dans Paris. Pour les retrouver, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie où une carte interactive est disponible et vous pouvez retrouver tous les îlots de fraîcheur de la ville.
Merci Isidore, avec Benjamin Danan au Parc Montsouris.
Docteur Guedj, on est meilleur dehors qu'à l'intérieur ?
Exactement, on est meilleur dehors qu'à l'intérieur. Par contre, c'est important de préciser que les personnes... Oui, c'est vrai, on est mieux.
Meilleur dehors non, mais... aussi.
Non, mais par contre, mais c'est important de préciser que les personnes qui peuvent être concernées, je sais très bien qu'on garde les parcs ouverts jusqu'à minuit, mais il faut bien se rendre compte que les personnes qui sont capables d'aller au parc à ces heures-là, ça ne va pas être les plus fragiles, les personnes qui justement sont le plus concernées par cette vague de chaleur.
C'est vrai. C'est pas si vrai. Alors, c'est pas si vrai. On a énormément de personnes âgées qui peuvent vivre dans des endroits où elles ressentent très fort la chaleur. Ils sont quand même encore en état de se déplacer. Faut pas oublier qu'on a beaucoup moins de sensations de soif et qu'on ne pense pas suffisamment à s'hydrater quand on est âgé. Oui. Il est essentiel pour les personnes âgées qui en ont l'opportunité de profiter de ces espaces-là. Et en réalité, je pense que toutes les personnes fragiles doivent pouvoir utiliser. Nous utilisons un panel de solutions et parmi ce panel, il est essentiel d'ouvrir des lieux tardivement pour pouvoir se rafraîchir. Et aussi, il faudrait ouvrir les salles de cinéma. Il faudrait pouvoir
ouvrir les salles de cinéma,
églises,
une bonne idée, ouais.
Il faudrait, etc.
On peut aller au cinéma en même temps.
Exactement. On pourrait imaginer des offres à prix réduit pendant les périodes de canicule avec des aides gouvernementales pour les salles de cinéma.
Les retraités.
C'est exactement ce que disait Marine Tondelier. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut aussi adapter le travail au réchauffement. Et pour ça, il faut accepter qu'il y ait des moments où, en fait, un nombre incroyable de travaux ne sont plus possibles au-delà de certaines températures, 33, 35, 40 degrés.
Il y a des chantiers à tenir.
Un chantier au-dessus de 45 degrés, il y a un risque. Et bien sûr, vraiment,
c'est déjà aménagé. Donc, demain, si je comprends bien, Virginie, à Paris, tous au cinéma, demain, s'il va faire très chaud.
Voilà, exactement. Plus de 35 degrés. Bon courage.